Bonjour, comment allez-vous? Thich Nhat Hanh, maître bouddhiste vietnamien, parle de l'incessante radio de notre mental. Elle envoie des « j'aurais dû lui dire, j'aurais dû vérifier, j'aurais dû écouter, j'aurais dû être plus gentil ». Elle diffuse aussi des « on m'a fait, on m'a rejeté, on m'a humilié, abandonné, on m'a accusé à tort ». Cette radio repasse en boucle nos peines et nos remords. Elle mouline aussi nos scénarios d'avenir. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Bref, elle ne se tait jamais. Et nous, avec tout ce vacarme dans notre tête, on n'entend plus grand-chose.
Bonjour, je m'appelle Julien, j'ai 19 ans, et je dis souvent, il faut méditer 5 à 10 minutes par jour. Mais qu'est-ce que ça veut dire juste méditer?
Alors, Fabrice Midal, vous êtes le fondateur de l'école occidentale de la méditation.
Alors, méditer, on pourrait dire, ça veut dire 3 choses. Ça veut dire rentrer à la maison. On fait plein de choses, et quand on médite, on s'assoit, on rentre à la maison, c'est tout simple, on arrête de courir, de faire plein de choses, on prend un temps, on rentre à la maison. La deuxième manière de dire ce qu'est la méditation, c'est on apprend à faire attention. L'attention, c'est un peu comme un muscle, il faut l'entraîner. Et la méditation, c'est un entraînement de l'attention, et on en a d'autant plus besoin aujourd'hui qu'avec l'infobésité et les textos et tout ça, on perd vraiment la capacité de faire attention. Du reste, c'est ce que disent la plupart des enseignants et des professeurs. L'obstacle qu'ils ont, c'est que les enfants ne savent plus trop comment faire attention. Dès qu'il ne se passe pas quelque chose, ils s'ennuient. Alors que faire attention, c'est accepter que les choses ont une certaine durée, une certaine lenteur, de prendre le temps. Et donc la méditation nous aide à apprendre à faire attention. La troisième manière de décrire la méditation, c'est qu'on ne fait rien. On est assis, on est présent, et on ne fait rien. Et on découvre que si on ne fait rien, eh ben il se passe plein de choses. Nos perceptions sensorielles sont complètement ouvertes, on entre complètement en rapport avec le monde, on voit des choses, on entend. Les pores de notre peau sont en rapport à la température, par exemple. Puis après, on se rend compte qu'on respire. Et simplement en respirant, on se met en rapport à la vie. On dit oui à la vie, parce que la respiration permet à tous nos organes de rester vivants. Et on est là, alors il peut y avoir des pensées, des émotions, des inquiétudes, et on ne fait rien. On note ce qu'il y a, mais on ne fait rien. Et ce geste-là nous redonne un sens d'ancrage dans le présent extrêmement fécond. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est bon aujourd'hui de pratiquer 5 à 10 minutes par jour comme on se lave les dents. C'est une forme d'hygiène, une forme d'éthique pour essayer de rester un être humain ouvert et disponible.
Eh bien, on va s'y mettre. Fabrice Midal, merci.
Bonjour, je m'appelle Annabelle, j'ai 6 ans et je veux savoir comment l'eau passe dans les racines des plantes.
Annabelle, nous proposons ta question à Catherine Laine, enseignante-chercheure en physiologie végétale à l'Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, auteur de « Dans la peau d'une plante », édité chez Belin. Vous comprenez, Catherine Laine, la question d'Annabelle?
Elle évoque là ce qu'on appelle la nutrition minérale de la plante. Donc cette plante, elle a besoin d'eau et de minéraux, donc elle a besoin d'eau minérale, qu'elle puise dans le sol au niveau des racines. Donc comment ça rentre? Alors d'abord regardons les racines, comment c'est fait. D'abord, un appareil racinaire de plante, c'est extrêmement ramifié, c'est-à-dire qu'il y a énormément de petites racines. On parle même de chevelure racinaire, donc vous imaginez
la
chevelure, exactement, c'est très fin. Et effectivement l'eau va rentrer par les extrémités de ce chevelu, c'est-à-dire là où les racines sont les plus fines, pas loin des pointes. Donc pas loin des pointes, qu'est-ce qu'on trouve? Alors on trouve théoriquement, et vous comprendrez pourquoi je dis théoriquement, parce que quand on est dans un laboratoire ou dans sa cuisine et qu'on fait germer un haricot, on va voir pousser la racine, puis on voit que la pointe se couvre un petit peu derrière, 1 ou 2 millimètres derrière, de poils.
Tiens.
Il y a plein de poils qui apparaissent, et ça, ces poils, on les appelle des poils absorbants, parce que justement, ils sont spécialisés dans l'absorption de l'eau.
Bien.
Alors, un poil, c'est quoi? C'est une cellule très allongée.
Oui.
Très fine, hein, la paroi est très fine et perméable, et l'eau va rentrer préférentiellement par ces poils. Alors, le moteur de l'entrée, c'est quoi? C'est qu'on a l'eau physiquement va toujours circuler d'un endroit où il n'y a pas beaucoup de substances dissoutes, vers un endroit où il y a beaucoup de substances dissoutes, comme pour diluer cet endroit-là et équilibrer les deux compartiments. Donc la racine, en fait, elle est chargée de substances, il y a des sucres dans ses cellules, et puis elle absorbe les minéraux du sol et elle les concentre à l'intérieur de ses tissus. Donc passivement, l'eau va rentrer dans la racine par les poils parce qu'il y a beaucoup de substances dissoutes à l'intérieur de la racine.
C'est bien parce que les racines, on les voit jamais, en fait.
Oui, c'est vrai. Elles sont dans le sol, ben on voilà. les voit pas. Et alors, tout à l'heure, j'ai dit théoriquement, Noël. J'ai dit...
Alors, en vrai, c'est pas
oui,
ça.
Parce qu'en vrai, dans la nature, le poil absorbant, mais il n'existe quasiment pas.
Ah bon?
Pourquoi? Parce que la quasi-totalité des plantes vivent au niveau de leurs racines en association avec des champignons.
Ah.
Donc, il y a des champignons dans le sol. Alors, on pense aux champignons, celui qu'on ramasse sous les arbres. En fait, quand je parle champignon, là, j'évoque le vrai champignon, celui qui se trouve dans le sol sous forme de filaments.
D'accord.
Ça s'appelle un mycélium.
C'est pas un bolet.
Le bolet, c'est l'organe sexuel du mycélium. Donc, il va faire apparaître de temps en temps ses organes sexuels pour se reproduire. Par contre, donc dans le sol, on a énormément de filaments de champignons. Et oui. Ces filaments s'associent, viennent emballer les racines pour leur faire des petits manchons. Et c'est à ce moment-là ces filaments qui vont absorber l'eau et les minéraux dans le sol de manière beaucoup plus efficace que la plante, parce qu'il y a énormément de filaments. On estime qu'il y a 1 kilomètre de filaments mycéliens pour 1 mètre de racines.
Oh là là.
Vous voyez, donc ça augmente énormément la surface d'absorption de la plante. On appelle ça une symbiose. Les deux êtres vivent en symbiose. Le champignon fournit l'eau et les minéraux à la plante. Et la plante lui fournit des sucres, puisque lui, il ne peut pas faire de photosynthèse, il n'a pas de chlorophylle.
Ah, voilà. C'est une aide intéressée.
Voilà.
L'union fait la force.
Les petits bateaux sur France Inter.
Bonjour, je m'appelle Félix, j'ai 6 ans et demi et je voudrais savoir pourquoi les cochons sont roses et les cochons sauvages sont noirs. Merci de me répondre. Voilà.
Bonjour, je m'appelle Louisa, j'ai 6 ans, je voudrais savoir pourquoi les cochons sont roses. Merci, au revoir.
Alors Louisa et Félix, nous avons bien évidemment proposé vos questions à un éleveur de cochons, Nicolas Brahic.
Bonjour Félix, bonjour Louisa. Donc les cochons, ils sont roses, ils sont noirs. En fait, ça dépend du mode d'élevage. On a sélectionné au XVIIIe siècle beaucoup de cochons pour avoir de plus en plus de petits et faire beaucoup de viande. Et ces cochons avaient, on va dire, un aspect normalement plus foncé. Et vu qu'on les a sélectionnés et puis à l'abri de la lumière et reproduits entre eux, en fait, on a... c'est une théorie, mais on a dépigmenté leur peau.
Les vôtres sont de quelle couleur,
alors,
Nicolas?
Moi, j'ai beaucoup de cochons tachetés, noirs, roux. J'ai encore un petit peu de rose, parce que vu qu'il y a eu beaucoup de croisements pour retrouver ce cochon du Larzac, on a encore quelques-uns qui ressortent roses, mais tachetés aussi. Mais globalement, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tachetés avec du poil. Alors que la plupart des cochons de bâtiment n'ont plus beaucoup de poils et ils sont très roses. En fait, ils ne voient jamais le soleil.
Ah ouais, c'est affreux.
Voilà. Donc on a en fait enlevé une des capacités de résistance au soleil. Parce que les cochons roses, lorsqu'on les sort de bâtiment et qu'on les met dehors, ils ont d'affreux coups de soleil et ils souffrent énormément.
Ah ouais. Sauf s'ils se roulent dans la boue, ça les protège.
Alors là, oui, mais voilà, si on est en hiver et qu'il y a un très beau soleil, ils ont des sacrés coups de soleil, comme nous quand on va au ski.
Ah, les pauvres. Ouais. Mais d'ailleurs, les pays où on voit des cochons en liberté, ou qui ont l'air d'être en liberté, en tout cas, quand on voit des cochons traverser la route et courir dans les espaces, ce sont toujours noirs.
Oui. Alors après, il y a des cochons plein air qui sont roses, il ne faut pas diaboliser. Ils s'adaptent, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont un peu moins roses. Ils ont une couleur un peu plus ambre. Donc c'est une adaptabilité au soleil.
Pauvre cochon qui souffre de coups de soleil. Alors moi, un pauvre cochon, enfin ça dépend où il habite. Ce Nicolas Brahic, il nous a dit qu'ils avaient comme espace à leur disposition un terrain de football. C'est pas mal, par tête de cochon.
C'était les tout petits bateaux.